Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Gene Robinson. Depuis 2004, cet homme, ça va vous dire quelque chose, cet homme est un évêque au sein de l'église épiscopale aux États-Unis. C'est aussi un père de famille divorcé qui s'est uni civilement il y a 2 ans avec un autre homme. Dans une interview récente accordée à un journal américain, voici ce que Gene Robinson a dit. Je le cite. « La vérité, c'est que l'église a changé d'avis sur beaucoup de sujets. » Il n'y a pas si longtemps, on utilisait la Bible pour justifier l'esclavage et l'asservissement des femmes. Aujourd'hui, on vit à une époque où l'Église est en train de se demander « Est-ce qu'on s'est aussi trompé au sujet de l'homosexualité ? Et est-ce que Dieu est en train de nous inciter à revoir notre position ?» Et je dirais « Oui, c'est le cas. » Fin de citation. Plus proche de nous géographiquement, est-ce que vous saviez que la Fédération protestante de France, dont notre Église est membre, saviez-vous que la Fédération protestante s'était positionnée dans les années 70 en faveur de la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, y compris dans des cas où la mère souffrirait simplement, je cite, « de déficience économique, sociale ou psychique ». Dans une déclaration officielle datant de 1973, voici ce que dit la Fédération protestante à ce sujet, et je cite. Respectueux de la laïcité de l'État, c'est-à-dire tolérant à l'égard des convictions des autres, nous ne songeons pas à faire imposer les nôtres par la loi à ceux qui ne les partagent pas. Mais l'expérience des croyants et l'histoire de la société nous font voir dans l'Évangile une force de libération à laquelle nous voulons rendre témoignage. Fin de citation. Je ne suis pas sûr exactement de ce que c'est que cette force de libération révélée dans l'Évangile par la société et par l'expérience personnelle, et qui a poussé la FPF à se positionner en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Mais il y a un mot, en tout cas, qui devrait retenir notre attention dans cette déclaration, c'est le mot « tolérant ». Le mot « tolérant ». Sommes-nous vraiment censés être tolérants à l'égard des convictions des autres ? Est-ce que c'est un principe absolu de la vie chrétienne ? Je dirais même plus, Dieu lui-même est-il tolérant à l'égard des convictions qui ne sont pas les siennes ? En fait, et tout simplement, le Dieu tolérant de Gene Robinson, par exemple, et de certains modernistes au sein de la Fédération protestante, ce Dieu tolérant est-il le vrai Dieu ? Est-il le Dieu de la Bible ? À ces questions, le texte qu'on va lire, qu'on s'apprête à lire, apporte des réponses qui ne sont pas du tout, mais pas du tout, politiquement correctes. On a déjà vu, à travers notre étude de ce livre du prophète Amos, qu'un des problèmes du peuple à cette époque, c'est qu'il croit être en bon terme avec Dieu, alors qu'en réalité, Dieu est très, très, très en colère. Les gens se permettent des tas de libertés au niveau de leurs mœurs, notamment s'imaginant que Dieu leur est propice, plutôt que d'éprouver leurs opinions et leur mode de vie à la lumière de la loi de Moïse et des prophètes. On a déjà pu voir, à travers notre étude de ce livre, avec quel langage véhément Dieu a déjà condamné la nonchalance et l'irresponsabilité du peuple. Mais maintenant, mes amis, le texte qu'on est sur le point de lire constitue peut-être un des passages les plus virulents de tout le livre du prophète Amos. Et dans ce passage, Dieu va se montrer très différent du Dieu des relativistes et des subjectivistes. Dieu ne va pas se montrer tolérant du tout dans ce texte. Il va se montrer au contraire très sévère à l'égard de ceux qui contredisent ses voies. Les voies de Dieu, en effet, sont objectives et absolues. C'est pourquoi, à travers ce passage, Dieu veut simplement nous montrer combien il est important que nous le prenions au sérieux, que nous prenions Dieu au sérieux. À quel point est-ce que vous prenez Dieu au sérieux ce matin ? À quel point le prenez-vous au sérieux dans vos opinions, dans votre comportement, dans vos choix de vie? À quel point prenez-vous Dieu au sérieux? Eh bien, dans ce passage, pour nous inciter à le prendre au sérieux, Dieu va révéler d'une part les conditions de sa patience, d'autre part, il va condamner la religion consensuelle, et troisièmement, il va insister sur la gravité de la situation. Vous êtes prêts? Alors lisons le texte. Amos chapitre 7, on va lire un passage relativement long, puisqu'on va lire tout le chapitre 7 et le début du chapitre 8. Mais ça fait que 20 versets, si on compte les versets, ça fait que 20 versets, c'est pas si long que ça. Amos chapitre 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici qu'il formait des sauterelles, au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel en eut du regret. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici que le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel en eut du regret. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici que le Seigneur se tenait sur un mur égalisé au niveau. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, voici que je mets le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui passerai plus rien. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amatsia, sacrificateur de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. » Amatsia dit à Amos, « Visionnaire, va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas sur Israël et ne bavarde pas sur la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ta terre sera partagée au cordeau, toi tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. » Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici une corbeille de fruits mûrs. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits mûrs. » Et l'Éternel me dit, « La faim a mûri pour mon peuple d'Israël. Je ne lui passerai plus rien. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, oracle du Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous confessons que toute ta parole est inspirée et utile pour notre édification. Seigneur, permets ce matin que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux que nous entendions, même si parfois cela est désagréable, même si parfois cela nous blesse. Nous voulons croire, Seigneur, que tu le fais pour notre bien. Tu veux couper ces sarments qui ne portent pas de fruits, afin que ceux qui portent du fruit en portent encore davantage. Cela pour ta gloire et pour notre bien. Nous prions donc que tu bénisses la prédication de ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Dieu veut nous montrer combien il est important de le prendre au sérieux. D'abord, premier point, en révélant les conditions de sa patience. Dans les versets 1 à 6, chapitre 7, j'espère que vous avez gardé votre Bible ouverte, dans les versets 1 à 6, Amos raconte qu'il a reçu deux visions. Deux premières visions, par lesquelles Dieu lui a montré qu'il s'apprêtait à intervenir pour châtier son peuple avec une sévérité terrible et croissante. D'abord les sauterelles, ensuite le feu. Mais à deux reprises, Amos nous dit qu'il intervient, qu'il s'interpose et qu'il intercède pour le peuple en invoquant les promesses de l'Alliance et en invoquant la pure et souveraine miséricorde de Dieu. Pardonne, arrête éternel, Seigneur éternel, arrête, Jacob est si petit. Il est si petit, comment subsistera-t-il? Comment tes desseins bienveillants pour le monde se réaliseront-ils si ton peuple disparaît? Et Dieu par deux fois renonce à exercer son châtiment. Dieu n'est pas en train de nous dire ici que son plan est modifiable ou qu'il n'a pas souverainement déterminé d'avance de quoi l'avenir sera fait. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire. Ce que Dieu est en train de nous montrer ici par le moyen d'une analogie avec la façon de penser des hommes, c'est pour ça que le texte dit que l'Éternel eut du regret. Par le moyen d'une analogie avec la façon de penser des hommes, ce qu'on appelle en théologie un anthropomorphisme, d'accord ? Ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est que bien qu'il ne tolère pas le mal, il est néanmoins patient et miséricordieux. Il n'est pas un Dieu tolérant, mais un Dieu patient. Et ce n'est pas la même chose. Imaginez un enfant et un adulte qui se font piquer en même temps, au même endroit de leur corps, par deux guêpes rigoureusement identiques, d'accord ? L'enfant va sans doute se mettre tout d'un coup à hurler sa douleur et son chagrin, tandis que l'adulte sait à peine s'il va faire la grimace et laisser sortir un « aïe ». Est-ce que ça veut dire que l'adulte a moins mal que l'enfant ? Est-ce que ça veut dire que l'adulte est moins sensible à la douleur ou que les piqûres de guêpes le dérangent moins ? Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que l'adulte, sans pour autant consentir à la douleur, est capable de l'endurer. N'est-ce pas ? De la même façon dans le texte, Dieu est en train de montrer non pas qu'il consent au mal perpétré par le peuple, mais en quelque sorte qu'il est en train de l'endurer, de le supporter. Autrement dit, il n'est pas tolérant, mais il est patient et miséricordieux. Les Israélites, on l'a déjà vu, hein, à travers notre étude de ce livre depuis 6 chapitres maintenant, les Israélites avaient accommodé Dieu à leur mode de vie en se disant que tout allait bien, que Dieu était dans leur camp et que comme ils étaient riches, en bonne santé et en sécurité, ça voulait forcément dire que Dieu les approuvait. Mais la réalité décrite dans ce texte, c'est que Dieu ne tolère ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font au point où ils s'apprêtent à les frapper de terribles plaies, de terribles plaies, des sauterelles d'abord et ensuite un feu dévorant qui va assécher même les nappes phréatiques en dessous des champs. Mais qu'en même temps, si les Israélites ne les subissent pas, à ce moment précis, ces châtiments, c'est parce que Dieu retient sa main. Il retient sa main à cause de sa patience et de sa miséricorde. Dieu n'est pas tolérant, mais il est patient et miséricordieux. Il retient sa main. Le Dieu tolérant, entre guillemets, présenté par les gens qui croient que tout le monde va au paradis, ou le Dieu tolérant présenté par les gens qui croient que toutes les religions du monde n'ont qu'une petite partie de la vérité, ou le Dieu tolérant présenté par les gens qui croient que Dieu adapte sa définition du bien et du mal en fonction de l'évolution de la société, ce Dieu tolérant-là, c'est un Dieu chamallow, un Dieu tout rose, tout doux, tout moelleux, tout fondant, un Dieu en réalité dénué de justice, et donc par conséquent, puisqu'il est dénué de justice, c'est un Dieu qui n'a pas besoin d'être rendu propice, puisqu'il n'a aucune raison d'être en colère. Mais le Dieu d'Amos, et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu dont la patience et la miséricorde sont grandes, certes, mais d'autant plus grandes qu'elles se mesurent précisément à l'aune de sa justice terrible et de sa colère terrible. Comment est votre Dieu ? Comment est votre Dieu ce matin ? Est-ce que c'est un Dieu chamallow ? Ou un Dieu dont la colère nécessite d'être apaisée ? Est-ce que votre Dieu est un pote super sympa ? Ou bien est-il un juge terrifiant dont vous n'oseriez vous approcher sans que quelqu'un intervienne, s'interpose et intercède pour vous. Cette vision de Dieu n'est pas très populaire, je vous le disais, elle n'est pas très politiquement correcte, mais c'est ce visage-là que Dieu offre à son peuple dans ce passage du livre du prophète Amos. Et il va même ensuite dénoncer la tendance que nous avons à ne pas le représenter ainsi, à ne pas représenter Dieu ainsi. Et c'est mon deuxième point. Dieu veut nous montrer combien il est important de le prendre au sérieux, deuxièmement, en condamnant ce qu'il convient d'appeler, ce que j'ai appelé en tout cas, la religion consensuelle. Regardez le texte, si vous avez encore votre Bible ouverte, chapitre 7. Regardez le texte à partir du verset 7. Après les deux premières visions, Dieu en donne une troisième à Amos. Et avec cette troisième vision, le discours change un peu. Dieu montre à Amos un niveau. Vous savez ce que c'est qu'un niveau ? C'est ce qu'on utilise en maçonnerie pour s'assurer qu'un mur est bien plat ou bien droit. Et Dieu explique à Amos que maintenant, il va appliquer au peuple une parfaite justice. Une parfaite justice. « Je ne lui passerai plus rien maintenant, » dit-il. Et cela aura des conséquences pour le moins fâcheuses sur le plan de la vie sociale, religieuse et politique, c'est ce qu'il dit. Verset 9, « Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la maison de Jéroboam. » Jéroboam, c'est le roi à ce moment-là, avec l'épée. Conséquences fâcheuses sur le plan de la vie sociale, religieuse et politique. Dans le texte, ensuite, il va se passer quelque chose de très intéressant. Il y a un prêtre, d'accord, un sacrificateur du nom d'Amatsia, qui va tout rapporter aux autorités et qui va chercher à faire taire Amos. Pourquoi ? Mais parce que le discours d'Amos est subversif sur le plan social et religieux. En d'autres mots, le prophète Amos est un trouble à l'ordre public. Amos est fidèle à la parole de Dieu, mais cette parole est dure. Elle est dérangeante, elle est protestante à proprement parler, n'est-ce pas ? Et le comble dans le texte, c'est que c'est un prêtre, un sacrificateur de Bethel, nous dit le texte. Vous savez ce que ça veut dire, Bethel ? La maison de Dieu, un sacrificateur de la maison de Dieu, nous dit le texte, qui cherche à faire taire cette parole et pour des raisons purement politiques. Comment est-ce que tu peux dire des choses pareilles, Amos ? Tu vas vexer le roi. Tu vas froisser l'opinion. Amos, tu vas provoquer les gens à la colère. Ce n'est pas sage ce que tu fais. Tu vas décrédibiliser l'Église. Tu vas nuire à l'Évangile, Amos. Arrête donc. Va-t'en. Mais la réponse de Dieu à travers Amos est lapidaire autant dans sa forme que dans son contenu. D'abord, Amos, vous l'avez vu dans le texte, Amos fait remarquer à Amatsia que Dieu a dû parler à travers un simple agriculteur comme lui, comme Amos, tellement les prêtres comme Amatsia ont échoué dans leur rôle d'homme de Dieu. Ensuite, Amos annonce à Amatsia une sentence absolument effroyable, due au fait qu'Amatsia s'oppose à ce que la parole de Dieu soit proclamée. Vous l'avez vu cette sentence, terrible. Terrible, verset 17. « À cause de cela, parce que tu dis, ne prophétise pas sur Israël, etc. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ta terre sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. » Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait froid dans le dos, ce genre de langage. Et vous avez vu ce qui est écrit au début du verset. « Voici ce que dit l'Éternel. » Voici ce que dit l'Éternel. La virulence du langage ici révèle combien Dieu déteste le comportement du sacrificateur Amatsia. Amatsia est en train d'agir un peu comme un policier, vous savez, qui refuserait de verbaliser les gens de peur de les vexer. Vous voyez ? À quoi ça sert un policier comme ça ? La loi, c'est une chose, mais attends, attends. Si on l'applique, les gens ne vont pas être contents. Ils vont pas nous aimer, nous, les policiers, si on applique la loi. On risque des émeutes. Ça pourrait même être la révolution, penses-tu ? Laissons les voyous dépouiller les vieilles dames de temps en temps. De toute façon, elles ont trop d'argent. Et puis rien ne dit qu'elles ne sont pas consentantes. On laisse ces gens tranquilles, ils nous laissent tranquilles, et on n'en parle plus. La loi, de toute façon, tout le monde le sait, elle est un peu dépassée. Allez, viens, on rentre au poste et on fait une belote. Le sacrificateur Amatsia, dans ce texte, en tant que gardien de la parole de Dieu, en tant que gardien de la parole de Dieu, il est tout aussi contre-productif que ce soi-disant gardien de la paix. N'est-ce pas ? La religion que prône Amatsia, c'est une religion consensuelle. Une religion consensuelle qui ne dénonce rien et qui ne choque personne. Vive la paix et la tolérance ! Mais Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi ? Pas parce que Jésus est venu provoquer des guerres. Pas parce que Jésus a dit aux chrétiens, prenez les armes et partez à la conquête du monde, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Mais s'il a dit ça, c'est parce que le message, la parole de Dieu est à ce point objectif, exclusif et absolu. Ce n'est pas consensuel. Le message de la Bible n'est pas consensuel. La Bible dit des choses choquantes. La Bible est choquante, mes amis. Il faut arrêter de se voiler la face. La Bible dit que l'homosexualité est une infamie. Romains 1, verset 27. La Bible dit que le féminisme est une atteinte à l'ordre de la création. 1 Timothée 2, verset 12. La Bible dit que l'environnementalisme est un genre d'idolâtrie. Romains 1, verset 25. Elle dit que l'avortement consiste à interrompre une vie humaine. Psaume 139, verset 16. La Bible dit que l'islam est une malédiction. Galates 1, verset 8. La Bible dit que toute relation sexuelle extramarital est un genre de profanation. 1 Corinthiens 6, versets 18 et 19. La Bible dit qu'indépendamment de Jésus, tout le monde va en enfer. Jean 14, verset 6. Ce n'est pas consensuel. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça en tant que chrétien? Est-ce qu'il faut arrêter de dire ou de croire ce que Dieu dit dans la Bible? Ou pire encore, comme Amathia, chercher à faire taire Dieu? Quel drame lorsque des soi-disant hommes de Dieu comme Amathia ou comme Gene Robinson ou comme toute la pléiade de théologiens libéraux qu'on a aujourd'hui s'opposent à ce que Dieu dit. Quel drame! Dans ce texte, Dieu condamne avec la plus grande fermeté ce genre de religion consensuelle. Il faut prendre Dieu au sérieux. Dieu a des choses désagréables à nous dire. Mais s'il veut nous les dire, c'est parce qu'on a besoin de les entendre. Vous croyez pas? Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la fin de ce passage. La fin de ce passage, ce sont les trois premiers versets du chapitre 8. Vous avez vu qu'il se rattachait au chapitre 7 parce qu'il est question de nouveau d'une vision, il est question du même langage employé par Dieu avec Amos. Et effectivement, dans ces trois versets, pour nous montrer combien il est important de prendre Dieu au sérieux, troisièmement et dernièrement, Dieu va insister sur la gravité de la situation. Comme si ça ne suffisait pas à ce qu'on a déjà vu dans le chapitre 7. Désolé, mais il va insister sur la gravité de la situation. Amos raconte qu'il a reçu une quatrième vision. Une quatrième vision, celle d'une corbeille de fruits mûrs, ou en fonction des traductions, vous avez peut-être des fruits d'été, des pêches, des abricots, des prunes, etc. D'accord ? Le sens de cette vision, Dieu la donne. C'est que le temps est venu pour le peuple de récolter les fruits de sa désobéissance. Et il y a un jeu de mots en hébreu entre le mot « fruit » et le mot « fin ». « Fruit » et « fin » en hébreu, ce sont des mots qui sont presque pareils. Et le verdict de Dieu fait froid dans le dos. Il dit que les chants de louanges se transformeront en gémissements, ou peut-être dans votre traduction vous avez des hurlements. Les chants de louanges se transformeront en gémissements ou en hurlements. Et il y aura partout, dit Dieu, une multitude de cadavres qui seront déposés en silence. Je vous l'avais dit, on est ici dans un des passages les plus virulents de tout le livre. Pourquoi un tel langage? Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre au peuple? Il veut leur faire comprendre combien la situation est grave et urgente. Et par conséquent, parce que la situation est grave et urgente, à quel point le peuple a besoin d'être sauvé de cette situation. Essayez d'imaginer que vous étiez un passager du Titanic ce fameux soir du 14 avril 1912. Peu avant minuit, le navire heurte un iceberg. Est-ce que vous pensez que quelques minutes plus tard, vous auriez entendu la voix du commandant Edward Smith sur le haut-parleur disant « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis Edward Smith, le commandant de ce navire. J'espère que vous faites un agréable voyage. Je vous signale que le bar est ouvert et que les consommations sont gratuites si vous voyagez en première classe. Je tiens également à vous informer qu'il y a eu un léger raccrochage entre la coque de notre bateau et un de ces magnifiques icebergs que vous pouvez admirer sur votre droite en regardant par les hublots. Quelques rivets de rien du tout se sont détachés et une petite voie d'eau a été ouverte sous la ligne de flottaison. C'est pourquoi, selon votre convenance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite aimablement à revêtir les gilets de sauvetage qui se trouvent dans votre cabine et à venir sur le pont supérieur profiter de la fraîcheur de cette belle nuit étoilée. Vous pensez que c'est comme ça que le commandant Edward Smith aurait pris la parole dans le haut-parleur? Pas du tout, hein. Ce n'est sûrement pas comme ça qu'on parle dans l'urgence. Quand la situation est grave. Malgré tout son flegme britannique, Edward Smith aurait probablement dit, beaucoup plus naturellement, pas trop fort, tout le monde sur le pont, en gilet de sauvetage, le bateau est en train de couler. Il y a une façon de parler dans l'urgence, n'est-ce pas, quand la situation est grave. À cause de l'urgence et de la gravité de la situation, Dieu dit ici, en ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. À cause de l'urgence et de la gravité de la situation, Jésus dit dans l'évangile, « Ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » À cause de l'urgence et de la gravité de la situation, l'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » Et un peu plus loin dans la même épître, « Le salaire du péché, c'est la mort. » On parle ainsi aux gens quand la situation est grave, pour leur faire comprendre leur besoin urgent et profond d'être sauvés, n'est-ce pas ? C'est ce que Dieu est en train de faire à travers son prophète Amos ici. Mais le problème, c'est qu'ici, à ce stade du texte, on a compris que Dieu avait usé d'une grande patience et d'une grande miséricorde pour retenir jusque-là son châtiment. Mais que le jour était maintenant imminent, où il allait appliquer parfaitement les critères de sa justice pour punir le mal qui est intolérable à ses yeux. Et si on comprend l'urgence et la gravité de la situation à ce moment du texte, il y a une question qui s'impose. Une question qui s'impose quand on arrive au verset 3 du chapitre 8 de ce livre. Et la question, c'est la suivante. N'y a-t-il donc plus personne, comme Amos, pour intervenir, s'interposer et intercéder pour nous ? N'y a-t-il personne pour invoquer les promesses de l'Alliance et la pure et souveraine miséricorde de Dieu ? N'y a-t-il personne pour dire « Pardonne, arrête, Seigneur, éternel, arrête donc, comment Jacob subsistera-t-il ? Il est si petit. » N'y a-t-il personne pour remplacer Amatia comme prêtre, comme sacrificateur et pour faire l'expiation de nos péchés ? Y a-t-il plus personne ? Mais à cette question, Dieu a donné une réponse. Une réponse conforme à toutes les promesses de grâce qu'il a faites depuis les premières pages de la Bible. Et cette réponse, on la trouve par exemple sous la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il écrit « Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Dieu veut simplement nous montrer combien il est important de le prendre au sérieux. Dans ce passage, pour nous inciter à le prendre au sérieux, dans un premier temps, Dieu a révélé les conditions de sa patience, comme on l'a vu à travers l'intercession d'Amos au début du chapitre 7. Et puis ensuite, il a condamné la religion consensuelle, comme on l'a vu, à travers l'échec du sacrificateur Amatia dans la deuxième partie du chapitre 7. Et enfin, il a insisté sur la gravité de la situation, comme on l'a vu, à travers la perdition du peuple décrite au début du chapitre 8. Est-ce que vous prenez Dieu au sérieux ? Dans vos opinions, dans votre comportement, dans vos choix de vie. Est-ce que vous mesurez combien le Dieu de la Bible est intolérant des convictions qui contredisent les siennes, mais combien il est patient et miséricordieux ? Est-ce que vous mesurez le sérieux de sa parole, la Bible, qui ne cessera jamais de dire ce qu'elle dit, quand bien même cela nous dérangerait, quand bien même on serait tenté de se boucher les oreilles ou pire, d'étouffer son message. Est-ce que vous mesurez la gravité de vos péchés et moi des miens et du juste châtiment mérité par mes péchés de la part d'un Dieu qui est parfaitement juste et trois fois saint ? Est-ce que je mesure le prix qui a été payé pour nous en délivrer ? Dieu mérite, si j'ose dire, qu'on le prenne au sérieux. Dieu mérite qu'on le prenne au sérieux. Et c'est pour cette raison que la tolérance n'est pas un principe absolu de la vie chrétienne. C'est pour cette raison que le Dieu chamallow, le Dieu tolérant, entre guillemets, de Gene Robinson et des modernistes, n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, aussi politiquement incorrect que cette affirmation puisse paraître. Comme on l'a vu, le Dieu de la Bible se montre très sévère à l'encontre de ceux qui contredisent ses voies. Très sévère. Mais il faut comprendre quelle est l'aversion de Dieu pour le péché, pour comprendre combien sa grâce lui a coûté cher et combien elle a surabondé en Jésus-Christ pour tous ceux qui se confient en lui.